Imaginez le scénario suivant. Un ami de l'église vous a prêté sa voiture pour vous dépanner, parce que la vôtre était en panne, mais en l'utilisant un jour, vous avez heurté un trottoir et vous avez creusé une profonde éraflure dans une des jantes. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour réparer cette situation? Ou bien imaginez un autre scénario. Vous êtes parti en vacances et vous avez demandé à des amis d'occuper votre maison pendant votre absence pour la surveiller. Mais à votre retour, vous découvrez que des pots de fleurs auxquels vous teniez beaucoup ont été renversés dans le jardin et cassés. Vos amis vous disent qu'ils n'ont rien vu et que ça doit être des enfants du voisinage qui ont dû s'introduire en douce pour vandaliser un petit peu votre jardin. Et ça, quand même, ça vous semble étonnant puisque ça s'était jamais produit auparavant. Mais comment faire maintenant pour ne pas laisser cette situation entraver votre bonne relation avec vos amis? Ou bien imaginez encore un autre scénario. Ça, c'est peut-être pour les plus jeunes d'entre nous. Votre petit frère ou petite sœur a reçu un super jouet pour son anniversaire et un jour où votre petit frère ou votre petite sœur n'est pas là, vous prenez son jouet sans lui avoir demandé la permission et vous jouez avec, sauf que vous le cassez. Vous le remettez à sa place en plusieurs morceaux sans rien dire à personne. Et quand votre petit frère ou petite sœur le découvre le lendemain, ce jouet, il est bien sûr effondré. En larmes, son jouet est cassé. Personne ne sait que c'est vous le responsable. Mais, parce que vous avez peut-être un peu une conscience, quelque part, qui vous reste, vous vous sentez un petit peu coupable. Mais comment faire maintenant pour réparer cette situation? On pourrait multiplier, n'est-ce pas, ce type de scénario où un préjudice matériel ou un dommage matériel demande à être réparé. Que ce préjudice résulte d'un pur accident, ou qu'il résulte d'une négligence, ou même qu'il résulte d'une malveillance caractérisée. Et souvent, ces situations relèvent de la vie courante, hein. Elles peuvent même parfois nous sembler un peu futiles et insignifiantes, finalement. Bon, d'accord, j'ai abîmé la voiture de mon ami. Et alors, il n'y a pas mort d'homme, c'est qu'une voiture. Puis de toute façon, comme on est des chrétiens, tout ce qui n'est pas spirituel n'est pas si important. Alors qu'en fait, cette question est importante pour Dieu. Et vous allez voir ce soir qu'elle est importante pour Dieu, cette question, puisque toute une partie de ce qu'on appelle le livre de l'Alliance, c'est-à-dire une section qui couvre 3 chapitres dans le livre de l'Exode et qui suit les 10 commandements, vous vous souvenez qu'on est dans le livre de l'Exode, il y a quelques semaines on a vu les 10 commandements, et à la suite des 10 commandements, il y a 3 chapitres qu'on appelle le livre de l'Alliance et où Dieu présente, par l'intermédiaire de Moïse, des différents cas de figure, des exemples, des situations types où la loi de Dieu va s'appliquer de telle ou telle manière. Et il y a toute une partie de ce livre de l'Alliance qui est consacrée à la question de savoir précisément comment réparer les préjudices matériels, comment réparer les dommages matériels. Si vous étiez là pour la dernière prédication sur ce livre de l'Exode, vous vous souvenez peut-être qu'on a vu un passage qui parlait des dommages causés à la personne humaine. Maintenant, il ne s'agit plus de dommages causés à la personne humaine, comme des blessures ou la mort, mais des dommages causés aux biens qui appartiennent à d'autres personnes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que si cette question est importante pour Dieu, c'est en fait parce que derrière cette question des dommages causés aux biens, il y a la question de notre relation avec notre prochain. Et derrière la question de notre relation avec notre prochain, il y a plus fondamentalement encore la question de la disposition de notre cœur à l'égard de notre prochain, et même, je dirais, à l'égard de Dieu. Alors, on va lire ce texte. Il s'agit d'un texte tiré du livre de l'Exode, le livre de l'Exode étant le 2e livre de la Bible, écrit par Moïse. On est au chapitre 21, et j'ai conscience que le découpage des chapitres peut être un petit peu différent en fonction de la version que vous avez. Dans ma Bible, qui est celle de la Bible à la Colombe, on va commencer au chapitre 21, verset 33. Un verset qui commence en disant « Lorsque le bœuf d'un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain ». D'accord ? Comme ça, vous pouvez situer à peu près où nous en sommes. « Non, je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas ça le premier verset, c'est « Lorsqu'un homme laissera ouverte une citerne ». Merci de votre patience. Verset 33, « Lorsqu'un homme laissera ouverte une citerne ». Nous lisons donc la parole de Dieu. « Lorsqu'un homme laissera ouverte une citerne, ou lorsqu'un homme creusera une citerne sans la couvrir, s'il y tombe un bœuf ou un âne, le propriétaire de la citerne donnera une compensation en argent au propriétaire de l'animal et aura pour lui l'animal mort. Lorsque le bœuf d'un homme frappera mortellement de ses cornes le bœuf de son prochain, ils vendront le bœuf vivant et se partageront l'argent. Ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est reconnu que le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne sans que son propriétaire l'ait surveillé, ce propriétaire donnera en compensation bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Lorsqu'un homme volera un bœuf ou un agneau, s'il l'égorge ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 pièces de petit bétail pour l'agneau. Si le voleur est surpris en cours d'effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil était levé, on serait coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il donnera une compensation au double. Lorsqu'un homme fera du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il enverra son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en compensation le meilleur produit de son champ et le meilleur produit de sa vigne. Lorsqu'un feu éclatera et rencontrera des chardons, si du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ est consumé, celui qui a causé l'incendie donnera une compensation. Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation au double, dans le cas où il serait retrouvé. Si le voleur n'est pas retrouvé, le maître de la maison s'approchera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est cela », le litige des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une compensation au double. Lorsqu'un homme donnera à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une bête quelconque qui meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne donnera pas de compensation. Mais si l'animal a été volé chez lui, il donnera une compensation au propriétaire. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne donnera pas de compensation pour ce qui a été déchiré, c'est-à-dire tué par un autre animal, un animal sauvage. Verset 13, « Lorsqu'un homme empruntera à son prochain une bête qui se casse un membre ou qui meurt en l'absence du propriétaire, il donnera une compensation. Mais si le propriétaire est avec lui, il ne donnera pas de compensation. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. » C'est passionnant comme texte, n'est-ce pas? On le relirait bien une deuxième fois, juste pour le plaisir, non? Non, je plaisante. C'était quand même la parole inspirée de Dieu, et avant d'aller plus loin, prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Nous reconnaissons qu'elle est tout entière inspirée de toi. Elle est infaillible, elle est utile pour notre édification, même ce texte que nous venons de lire. Nous te prions de bien vouloir nous aider maintenant à en discerner le message pour nous aujourd'hui, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous communiquer, la façon dont ta parole doit s'appliquer à notre vie aujourd'hui pour ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors la première chose qu'il faut remarquer en lisant ce texte, c'est tout simplement le fait que Dieu nous parle de ces choses. C'est déjà remarquable en soi. Au moment où Dieu est donc en train de constituer son peuple, je vous rappelle que le livre de l'Exode raconte la façon dont Dieu a délivré les Hébreux de l'esclavage en Égypte, il les a conduits dans le désert, il a fait alliance avec son peuple, il leur donne une sorte de constitution au moment où il veut les former en nation à part, il leur donne les 10 commandements, et au moment où il est en train de mettre en place toutes ces choses tellement importantes, Dieu estime qu'il est important à ce moment-là d'aborder la question de la responsabilité individuelle des gens à l'égard des possessions matérielles des autres. Rien que ça, c'est déjà remarquable. Et le passage qu'on vient de lire, eh bien, vous avez pu remarquer qu'il passe en revue toutes sortes de situations différentes qui sont des situations types, ou en langage un peu plus savant, des paradigmes, des situations types où il y a des préjudices, vous avez vu, tantôt purement accidentels, tantôt dus à une négligence de la part de quelqu'un, tantôt dus à de la malveillance comme le vol. Et dans toutes ces situations, le texte dit, et c'est un petit peu le point commun, le texte dit qu'il y a des conséquences à assumer. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de responsabiliser les Israélites. Comme si Dieu leur disait, écoutez, faites attention, vous êtes mon peuple. Je vous ai pris pour moi, pour être mon peuple à moi, une nation sainte, c'est-à-dire une nation à part qui m'appartient pour me servir et me faire connaître au reste du monde. Écoutez-moi, faites attention à comment vous agissez vis-à-vis des biens qui appartiennent aux autres. Pourquoi ? Parce que vous êtes responsable de vos actes et vos actes ont des conséquences que vous êtes responsable d'assumer. Vous voyez, la loi de Dieu ici souligne la responsabilité individuelle des gens dans le but de les inciter à la précaution, en fait, les inciter à la prudence et au respect des autres, non seulement par rapport donc, à l'intégrité de leur personne, comme on l'a vu la dernière fois, hein, faire attention de ne pas blesser les gens, de ne pas porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique, mais ici aussi, être prudent et respectueux par rapport à leurs biens, à leurs possessions. Oui, la propriété privée, c'est un concept biblique. La propriété privée mérite, selon Dieu, d'être respectée. Bref, pour le dire très simplement, on doit faire attention à ce qui appartient aux autres. Okay ? C'est pas très compliqué. Mais c'est quelque chose que Dieu veut que nous prenions au sérieux. Je me souviens d'un jeu qui était installé il y a quelque temps au centre commercial de la Confluence, juste de l'autre côté du fleuve, et que mes enfants, ils aimaient beaucoup. Moi aussi, d'ailleurs, j'aimais beaucoup ce jeu. Ça s'appelait le Laser Box. Le Laser Box, c'était une espèce de grande cabine obscure, il faisait tout noir à l'intérieur, sauf que cette cabine, cet espace, était traversé de part et d'autre de plein de rayons laser. Et le but du jeu était d'aller d'un bout de cet espace à l'autre bout et d'en revenir le plus vite possible sans toucher les rayons laser. Vous comprenez le concept ? Alors forcément, pour jouer, on devait faire très attention. Je pense que pour jouer, il fallait payer 1 euro par trajet, hein, 1 euro par partie. Et honnêtement, c'était pas cher payé, vu le plaisir qu'on avait à s'amuser et à jouer. Mais je me dis que si en plus de payer 1 euro par partie, imaginez qu'on nous inflige une amende de 15 euros à chaque fois qu'on touche un laser au cours de la partie. Je pense qu'on aurait peut-être fait encore plus attention en jouant à ce jeu. En quelque sorte, cette règle, elle nous aurait encore plus responsabilisés. Et peut-être d'ailleurs qu'on se serait un peu moins amusé. On aurait pris le truc peut-être un peu moins à la légère. Et c'est peut-être l'effet que ce texte ici doit produire sur nous. Dieu aussi veut nous responsabiliser en nous rappelant que nos actes à l'égard d'autrui, y compris à l'égard des biens, des possessions d'autrui, nos actes ont des conséquences que nous devons être prêts à assumer. Et d'ailleurs, cette idée est d'autant plus importante et frappante dans le texte, surtout pour ceux qui le reçoivent à l'époque, que les lois de l'époque, mais des nations environnantes, pas les lois d'Israël, mais des autres nations qui existaient déjà à cette époque-là, et que nous connaissons aujourd'hui, ces lois prévoyaient, en fait, une forme de discrimination entre les différentes classes sociales. Autrement dit, la responsabilité des gens dans ces peuples-là était à taux variable en fonction de votre niveau sur l'échelle sociale. Donc, autrement dit, un pauvre ou un esclave qui allait porter atteinte au bien d'un notable, il encourait des conséquences beaucoup plus graves, beaucoup plus sévères que l'inverse, si c'était un notable qui portait atteinte aux possessions d'un esclave. Et donc, il y avait une responsabilité à taux variable, en quelque sorte. Mais ce n'est pas du tout le cas dans la loi de Dieu, ce n'est pas du tout le cas dans la loi d'Israël. Tous les gens ici sont logés à la même enseigne. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en parlant la dernière fois des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Les esclaves, comme les maîtres, étaient logés à la même enseigne. Ici, c'est le cas aussi. Tout le monde doit faire attention à ce qui appartient aux autres. Et nous devons déjà prendre à cœur cette réalité, nous aussi, aujourd'hui. Parfois, on se dit, bah, c'est pas grave si je pique 100 euros à l'État français. L'État, il a tellement d'argent, il va pas le sentir passer. Des fois, on se dit, je sais bien qu'en tant que commercial, ben, les prix que j'annonce à mes clients sont largement exagérés. Mais bon, c'est le système. Tout le monde le fait. Tout le monde connaît les règles du jeu. C'est comme ça. Ou encore, oui, je sais que j'ai rayé la voiture de mon ami, celle qui m'a prêté. Et alors, c'est une petite rayure. Ce serait ma voiture. Ça ne me dérangerait pas, moi. Ou encore, les enfants, c'est pas juste que j'ai pas eu un jouet aussi bien que mon petit frère à Noël. Je suis donc totalement dans mon droit de jouer avec son jouet quand il n'est pas là, ou quand elle n'est pas là. Mais vous voyez que ce texte, déjà, nous incite à avoir une attitude différente de celle-là. Hein. Nous devons faire attention à ce qui appartient aux autres. La deuxième chose qu'il faut remarquer dans ce texte, c'est que la loi de Dieu vise toujours la réparation des torts, la réconciliation des personnes, et même, on pourrait dire, la réhabilitation des coupables. Et ça aussi, c'est vraiment frappant quand on compare la loi d'Israël avec la loi ou les lois de certains autres peuples de l'époque. Le code de Hammurabi, dont j'ai déjà parlé, par exemple, condamnait les voleurs, dans un certain nombre de cas, à la peine de mort. Tu piques le bœuf de ton voisin, t'es condamné à mort. C'est quand même un peu radical comme punition, comme châtiment. C'est pas du tout le cas, l'avez-vous remarqué, dans la loi de Dieu. Hein. Ce qu'on peut constater dans notre texte, c'est au contraire le sens de la proportion, l'insistance qu'il y a sur la notion de compensation. Vous avez remarqué à quel point ce mot compensation revient dans ce texte. La loi fait la différence d'ailleurs entre un dommage accidentel, un dommage par négligence et un dommage par malveillance. Dans tous les cas, on l'a dit, le responsable doit assumer sa responsabilité et il doit payer un dédommagement, mais un dédommagement qui est juste, qui est approprié par rapport à ce qu'il a fait. Dans le cas d'une négligence, c'est pire qu'un simple accident, et encore plus dans le cas d'un vol, la compensation, vous l'avez peut-être remarqué, va intégrer une sorte d'amende, une forme d'amende. Autrement dit, il ne suffit pas de rembourser ce qu'on a piqué ou de rendre ce qu'on a volé, mais il faut encore payer en plus. La compensation est double. Tu voles un bœuf, tu ne rends pas juste le bœuf, tu rends deux bœufs. Autrement dit, ça te coûte ce que tu avais l'intention de piquer à l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas très clair. Les commentateurs ne sont pas sûrs si la compensation au double veut dire qu'on paie. Qu'en plus de rendre le bœuf, on doit en rajouter encore deux, ou bien ça veut juste dire en rajouter un par rapport en plus de celui qu'on rend. En tout cas, ça coûte au voleur. Il y a une forme d'amende punitive. Et le but ici, il est double. Il est à la fois, bien sûr, de dissuader les gens qui seraient tentés par le vol, parce que s'il n'y avait pas cette compensation au double, qu'est-ce qui se passerait ? Ben finalement, on ne risquerait pas grand-chose à voler les choses des autres, puisque si on se fait prendre, on a juste à les rendre, et puis on recommence le lendemain. On ne risque pas grand-chose. Et là, si on se fait prendre, ça nous coûte, ça coûte aux voleurs, n'est-ce pas ? Donc il y a une forme de dissuasion, mais le but est aussi de satisfaire les victimes. Il y a un dédommagement, parce que la victime a été pénalisée en ayant été privée de son bien, pendant un temps en tout cas. Autrement dit, celui qui est tenté par le vol sait qu'il risque de perdre plus qu'il ne gagnera, et celui qui a fait l'objet d'un vol sait aussi qu'il est censé, d'après la loi de Dieu, se satisfaire du dédommagement prévu, et qu'il n'est pas en droit de laisser libre cours à ses sentiments de vengeance, vous savez, qui parfois sont complètement disproportionnés et même des fois sans limite. En cas de préjudice, donc, on doit rechercher une réparation juste et satisfaisante qui vise en fait la résolution du litige, la résolution simple et définitive du litige. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1994, une dame a fait un procès à une certaine chaîne de fast-food après s'être accidentellement renversé son café sur elle-même. Le café lui ayant causé des brûlures, un peu comme le bras de Judson, sauf que lui, c'était pas du café, c'était de l'huile bouillante. Sauf que là, c'était pas de la faute d'un fast-food, enfin, j'en sais rien, vous me direz. En tout cas, elle s'est renversée ce café brûlant sur elle-même, ça lui a provoqué des brûlures. Du coup, elle a accusé la chaîne de fast-food de lui avoir servi un café trop chaud. Et à la fin du procès, le jury a condamné le fast-food à verser à cette dame $160,000 en dédommagement dit compensatoire, c'est-à-dire pour rembourser ses frais médicaux et aussi son interruption de travail, etc., plus $2,7 millions comme dédommagement dit punitif. C'est-à-dire l'amende, si vous voulez, pour punir la chaîne et dissuader peut-être d'autres chaînes de fast-food de servir des cafés trop chauds. Finalement, l'histoire ne s'arrête pas là. Après appel et négociation, la plaignante a seulement, je dis bien seulement, reçu autour de $500,000. Ce qui nous paierait notre futur local d'église. Mais bon, s'il y a un volontaire pour se brûler avec un café. Plus récemment, j'ai lu un article qui parlait de deux magasins de bricolage qui font chacun l'objet d'un procès parce qu'ils vendent des planches de bois qui ne font pas exactement la taille indiquée sur les étiquettes, à quelques millimètres près. Les plaignants demandent plus de $5 millions comme dédommagement. Alors quand on lit ces histoires, vous savez, elles passent régulièrement dans les infos. Quand on lit, quand on découvre ces histoires, on se dit que c'est quand même un petit peu disproportionné, non ? Eh bien, c'est pas comme ça dans la loi de Dieu. C'est pas comme ça dans la loi d'Israël. Les compensations, comme on l'a lu ici, sont justes et proportionnées. Et elles visent à la fois la juste punition du coupable et la satisfaction raisonnable de la victime, de façon à ce que la situation soit vraiment réparée. Vous voyez, d'après la loi de Dieu, une fois que la justice est rendue, la balance ne penche plus d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça, par exemple, que la loi de Dieu précise qu'il n'est pas permis à la victime d'un cambriolage en plein jour de tuer le cambrioleur. Non, c'est pas permis, il serait coupable de meurtre, nous dit le texte. Donc le cambrioleur, il vient chez vous, il fait pencher la balance de ses torts vers lui, parce qu'il n'est pas censé être chez vous pour vous piquer vos affaires. Mais si vous, en plein jour, vous le découvrez et vous le tuez, la balance, elle penche tout d'un coup beaucoup plus de votre côté. Et c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner d'après la loi de Dieu. Quand la justice est rendue, parce que la compensation est proportionnée, parce qu'elle est adaptée, appropriée, eh bien la balance ne penche plus d'un côté ou de l'autre. Ou encore, quand un voleur est pris, nous dit le texte, et qu'il n'a pas les moyens de payer la compensation, de payer le dédommagement, le texte dit qu'il doit être prêt à se vendre lui-même pour rembourser par son travail la dette qu'il doit à la victime. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que dans la loi de Dieu, l'incarcération, la prison, ça n'existe pas. Les peines de prison, ça n'existe pas. La justice est rendue par d'autres moyens. Et pourquoi est-ce qu'il doit se vendre pour rembourser par son travail la dette qu'il doit à sa victime ? Parce qu'ainsi, il ne s'expose pas à tous les caprices de la victime qui voudrait se venger. « Ah, t'as pas de quoi payer ? Ben viens, tu vas voir, je vais te supplicier pendant 3 semaines, je vais faire de toi ce que je veux pour me défouler, pour satisfaire mon désir de vengeance. » Mais ça, c'est pas permis, vous voyez ? C'est pas permis dans la loi de Dieu. Chose intéressante encore, quand le voleur n'est pas retrouvé, ou quand il y a un doute sur la responsabilité d'une personne, on se dit « Je suis quasiment sûr que c'est lui qui m'a pris mon bœuf. » Mais on ne peut pas le prouver, on n'est pas sûr, on ne sait pas, la personne le nie. Et bien, la loi prévoit, ici, la loi de Dieu prévoit qu'on se fie à la parole des personnes concernées qui vont faire un serment devant Dieu. Quand le texte dit « devant Dieu », ça veut dire en fait « devant les autorités qui représentent Dieu », devant les anciens du peuple, peut-être devant les prêtres au temple. Et donc on doit s'engager solennellement, et c'est un engagement moral, et on doit se fier à l'engagement moral de l'autre. C'est-à-dire on doit le croire sur parole, sachant que c'est Dieu, que Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur, et que c'est Dieu qui rend justice à la fin, quand nous on n'est pas capable de le faire. On voit en tout cas que le but, dans toutes ces situations, c'est de rechercher la réparation, l'apaisement, la réconciliation, le rétablissement de bonnes relations au sein du peuple. Les coupables doivent être prêts à assumer leurs actes en compensant pour leurs torts, et les victimes, de leur côté, doivent être prêtes à se contenter de cette compensation et, comme on dit, à effacer l'ardoise, à dire « Ok, justice a été rendue, j'accepte cette compensation, l'ardoise est effacée. » Comment on peut appliquer ça aujourd'hui ? Eh bien non, d'après l'éthique biblique, non, je ne peux pas casser la figure à ce mec qui a rayé la portière de ma voiture sur le parking de Carrefour. Non, ça va, c'est pas ok ça, quand on est chrétien. Je ne peux pas tabasser à coups de batte de baseball, comme a failli le faire un voisin qu'on a vu. Enfin, voilà. Je ne peux pas tabasser à coups de batte de baseball le gars complètement ivre qui a pénétré dans mon jardin. Je ne peux pas exiger de la part de mon ami qu'il me rachète une guitare neuve parce qu'il a cassé une corde de la guitare que je lui ai prêtée. Je ne dois pas faire la tête toute ma vie à ce frère de l'Église parce que c'est lui qui gardait mon chien quand celui-ci est mort accidentellement. Inversement, si j'ai cassé le jouet de mon petit frère ou de ma petite sœur, je ne dois pas juste recoller les morceaux avec du scotch et me dire « c'est bon, j'ai compensé, j'ai réparé ». Je dois sans doute lui racheter un jouet neuf à mes propres frais. Si j'ai abîmé la jante de la voiture de mon ami qu'il m'avait prêté, je dois au moins m'excuser, lui proposer de lui remplacer cette jante et peut-être même l'inviter au resto pour dissiper toute amertume potentielle, vous comprenez ? Faire réparation, rechercher la réconciliation, le rétablissement, l'apaisement. Donc on doit faire attention à ce qui appartient aux autres, premièrement, et deuxièmement, en cas de problème, on doit rechercher et accepter aussi une réparation juste et satisfaisante. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce que ce texte pointe avant tout, c'est la disposition générale de notre cœur. Est-ce que nous sommes enclins naturellement, honnêtement, à proposer une compensation à notre prochain alors que le dommage qu'il a subi est vraiment purement accidentel? D'accord, c'est moi qui ai creusé cette citerne, mais en même temps, il m'était impossible d'imaginer que ton bœuf allait passer par là. C'est vraiment un accident, j'y suis pour rien. Finalement, c'est un petit peu de ta faute si t'as laissé ton bœuf s'approcher de ma citerne. Ou bien, oui, c'est moi qui ai mis le feu à mon champ pour le débroussailler. Tu sais très bien que nous autres agriculteurs, on fait ça tout le temps. Mais le vent a tourné de façon complètement soudaine. C'était pas prévu par la météo. C'est pas du tout de ma faute si tout d'un coup les flammes sont passées chez toi. Ou bien encore, oui, c'est moi qui ai accroché ton portail avec ma voiture en arrivant chez toi, mais c'était pour éviter d'écraser ton chat. C'était un accident, j'y suis pour rien, c'est la faute de ton chat. Est-ce qu'on est enclin naturellement à proposer une compensation, à payer de notre poche pour des situations où vraiment c'était un pur accident, on y était pour rien? Et lorsque nous proposons une compensation, est-ce que nous sommes naturellement enclins à offrir, comme dit le verset 4, le meilleur produit de notre champ et le meilleur produit de notre vigne? Est-ce que nous sommes naturellement enclins à aller au-delà du simple remboursement? Et est-ce que nous sommes naturellement enclins à faire même plus, à faire plus que juste remplacer le bien qui a été endommagé? Ok, c'est vrai que sa voiture est tombée en panne pendant que je lui avais emprunté. Franchement, elle serait sûrement tombée en panne de toute façon, il n'entretenait pas très bien sa voiture. Mais bon, je suis naturellement enclin, ça me procure du plaisir à aller payer de ma poche cette réparation. Et même, non seulement je vais payer sa réparation, mais je vais faire passer sa voiture au car wash. Je vais passer l'aspirateur à l'intérieur pour lui rendre vraiment sa voiture comme neuve. Est-ce qu'on est enclin à réfléchir comme ça, naturellement? Ben, moi non. Alors honnêtement, est-ce que nous sommes enclins à aller au-delà du simple minimum? Comme d'ailleurs le dit Jésus dans son fameux sermon sur la montagne, lorsqu'il commente et interprète pour nous la loi de Moïse. Il dit « Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Si quelqu'un veut te traîner en justice, c'est peut-être qu'il a quelque chose contre toi, peut-être que c'est même justifié, peut-être que tu as une petite responsabilité là. Ne résiste pas, donne-lui même ton manteau. Va au-delà du simple minimum requis pour la réparation. Alors non, je ne pense pas qu'on soit enclin à faire cela naturellement. Pourquoi ? Parce que notre cœur est naturellement orgueilleux et il est naturellement égocentrique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus préoccupé par nos propres intérêts que par les intérêts des autres. Comme nous le rappelle Metallica dans une chanson intitulée « Sad but true », « Triste mais vrai » en français, il dit dans le dernier couplet, la chanson dit « Je suis ta vérité et je te dis des mensonges. Je suis ta raison et je te fournis des alibis. Je suis à l'intérieur de toi, ouvre les yeux, je suis toi. » C'est le cœur qui parle, c'est le cœur tortueux de l'homme qui parle, ce cœur centré sur nous-mêmes, ce cœur qui nous donne toutes sortes, qui nous fournit toutes sortes de raisons et d'excuses et de prétextes et d'alibis pour rechercher notre intérêt plutôt que celui des autres. C'est pas vrai ? Quoi de plus naturel, franchement ? Le problème, c'est que dans une société où tout le monde pense comme ça, eh ben, il ne peut pas y avoir de paix durable. C'est impossible. On répond à un préjudice par un autre préjudice. La balance penchait de ce côté, et d'un coup, elle va pencher de l'autre côté. Et elle va encore repencher de l'autre côté, et encore de l'autre côté, et la justice n'est jamais satisfaite, et on n'obtient jamais une réparation juste et satisfaisante. Et on entre dans une espèce de spirale interminable, infernale, de litige et de rancune, un peu comme dans Astérix chez les Corses, où Astérix demande pourquoi deux clans sont fâchés, il ne comprend pas pourquoi ces deux clans corses sont fâchés, et la réponse est la suivante. Ben, on ne sait plus très bien. Les vieux disent que le grand-oncle d'Okatarina Tebelachichix a épousé une fille du clan Thalassotherapix dont était amoureux un cousin par alliance d'un aïeul de Figatélix. Mais d'autres assurent que c'est à cause d'un âne, que l'arrière-grand-père de Figatelix avait refusé de payer au beau-frère d'un ami intime des Ocatarina Tebelachichik sous prétexte qu'il était boiteux, l'âne, et non pas le beau-frère d'Ocatarina Tebelachichik. Et la conclusion de l'affaire, je cite, « C'est très grave en tout cas. » Alors quel est le remède? C'est pas dans ce genre de société qu'on veut vivre, n'est-ce pas? Surtout si on est le peuple de Dieu. Sinon, surtout si on est le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué. C'est pas ça le plan de Dieu. C'est pas ça la justice de Dieu. C'est pas ça la sainteté à laquelle Dieu appelle son peuple. Quel est le remède alors? Et bien, puisqu'on approche de la fin de la prédication, la réponse c'est Jésus. Le remède à notre cœur orgueilleux et égocentrique, c'est la personne et l'œuvre du Messie, Jésus, le Christ. Quand on considère Jésus, on se rend compte de ce qu'on mérite vraiment. Parce que Jésus est venu, de la part de Dieu, subir volontairement, à la place des croyants, le châtiment de nos fautes, c'est-à-dire ce que nous méritions par nature. Et c'est en considérant ce que Jésus a subi à la place des croyants que nous pouvons comprendre quelle est la gravité de notre situation, due à l'état de notre cœur. Ce châtiment a été absolument horrible, puisqu'il a consisté pour Jésus à être abandonné, humilié, battu, moqué, torturé et mis à mort sur la croix, sur cette croix où même psychologiquement Jésus a fait l'expérience d'être abandonné par Dieu, c'est-à-dire qu'il a fait l'expérience de l'enfer. Voilà ce que nous méritons par nature. Et quand on prend conscience de cette réalité, quand on prend conscience de cela, en fait, on n'a plus trop envie de défendre ses propres intérêts. Parce qu'on se rend compte qu'aux yeux de Dieu, on n'a pas grand-chose à faire valoir par nous-mêmes, n'est-ce pas? L'attitude logique, lorsqu'on prend conscience de l'état véritable de notre cœur, et donc de notre culpabilité aux yeux de Dieu, l'attitude logique, c'est plutôt ce que la Bible appelle la repentance. La repentance qui consiste à tout simplement arrêter de se justifier et à se jeter sans réserve au pied de la croix de Jésus, dans la dépendance totale de Dieu, sachant que lui seul a le pouvoir de nous pardonner et de nous sauver sur la base de ce que Jésus seul et nul autre a accompli par sa mort et sa résurrection. Et la Bible nous dit que la repentance authentique, lorsque nous prenons conscience de ça, lorsque nous prenons conscience de la gravité de l'état de notre cœur, mais lorsque nous prenons conscience aussi de la richesse, de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ et que Dieu nous présente en lui, lorsque nous prenons conscience de ça, nous sommes conduits à la repentance. Et la Bible dit que la repentance authentique produit des fruits. D'une part, elle produit le salut, c'est-à-dire la certitude que Dieu nous pardonne. Nous sommes apaisés, réconciliés avec Dieu. Mais d'autre part, elle produit aussi une attitude différente dans notre relation avec les autres. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans un passage que j'aime bien, 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11, où il dit « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui, premier fruit, mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort, ça c'est la fausse repentance. Et voici, deuxième fruit, cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, etc. etc. Vous voyez les fruits de la repentance authentique qui produisent le salut et qui produisent aussi la repentance qui produit aussi une attitude différente dans notre relation avec les autres. Le cœur repentant, le cœur humble et contrit, ne revendique plus rien pour lui-même. Et à l'inverse, sachant la grâce qui lui a été faite, le cœur repentant, il sait qu'il est en quelque sorte débiteur de cette grâce. C'est une expression qu'emploie aussi l'apôtre Paul. Il est en quelque sorte endetté envers Dieu. Non pas qu'il a quelque chose à rembourser à Dieu, ce serait impossible, et Dieu n'attend pas que nous remboursions le salut qu'il nous offre par grâce et que nous recevons gratuitement. Mais le cœur repentant, sachant pourtant qu'il n'a rien à rembourser, il a pourtant envie, fondamentalement, profondément, il a envie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour plaire à Dieu et pour le servir fidèlement. Le cœur repentant reconnaît perpétuellement ses torts et reconnaît perpétuellement que par nature il mérite d'être condamné. Et bien qu'il sait qu'il ne peut pas rembourser moralement ses péchés, il a pourtant envie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour les réparer. Encore une fois, non pas pour mériter le pardon, mais au contraire, parce qu'il a été pardonné, parce qu'il a déjà été pardonné, il est rempli de cette envie, de ce zèle, de cet empressement dont parle l'apôtre Paul. Alors, plusieurs commentaires que j'ai lus sur ce passage dans le livre de l'Exode. Pour terminer, ces commentaires mentionnent, plusieurs d'entre eux, l'histoire d'un certain Zachée dans le Nouveau Testament. Ce fameux collecteur d'impôts que vous connaissez peut-être, il était petit en taille, il voulait voir Jésus, il a grimpé dans un arbre pour pouvoir le voir, n'est-ce pas? Il a rencontré Jésus dans la ville de Jéricho et il a même reçu Jésus dans sa maison. Et ce Zachée, c'était un homme détesté de tous, parce qu'il était collecteur d'impôts, et comme beaucoup de collecteurs d'impôts, il était malhonnête. C'était tellement facile pour lui de piquer de l'argent aux contribuables, hein, de leur annoncer des impôts supérieurs à ce qui était dû en réalité, et de se mettre la différence dans la poche. Et il avait en effet lui-même dérobé beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Mais l'histoire qui nous est rapportée dans le Nouveau Testament, c'est que ce Zachée, sous l'effet de la repentance, il déclare à Jésus et devant les gens assemblés ce jour-là, il déclare « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est-à-dire que Zachée, vous voyez, il va bien au-delà de ce qui est prévu dans la loi de Moïse. Tu voles, tu rends et tu compenses au double. Non, moi je vais aller plus loin parce que j'ai envie, j'ai pris conscience de la gravité de mes péchés et de la richesse de la grâce qui m'a été faite en Christ. Et je vais rendre ce que j'ai volé au quadruple, je vais aller au-delà parce que j'ai cet empressement, ce zèle en moi, fruit de la repentance authentique. Et tel est le fruit, en effet, d'un cœur bien disposé par l'évangile de la grâce. Oui, donc, on doit faire attention à ce qui appartient aux autres, premièrement. Et oui, deuxièmement, en cas de problème, on doit rechercher et accepter une réparation juste et satisfaisante, mais sous l'effet de la grâce, troisièmement, comme on le voit déjà dans l'Ancien Testament et comme on le voit encore plus clairement dans le Nouveau Testament, nous pouvons aller même au-delà de ce qui est juste. Et nous pouvons arrêter de défendre à tout prix nos intérêts. Et nous pouvons rechercher avec zèle, d'un cœur humble et contrit et reconnaissant, nous pouvons rechercher l'intérêt de notre prochain plutôt que le nôtre. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Il est allé au-delà de ce qu'exigeait la justice. Il ne nous a pas rétribué pour nos fautes. Il aurait pu le faire et ça aurait été parfaitement juste. Il ne nous a pas rétribué pour nos fautes, mais il s'est donné lui-même, par Jésus, dans l'intérêt de notre salut éternel. Comme nous le chantons parfois, « Que ta grâce me conduise, je lui demeure obligé. Tiens mon cœur sous ton emprise chaque jour par ta bonté. Me sachant trop indocile, trop enclin à te trahir, puisses-tu, par l'Évangile, jusqu'au bout me maintenir. Amen. » Je vous invite à la prière. Nous te confessons, notre Dieu, notre Père, que nous avons un cœur mal disposé, enclin à défendre nos propres intérêts plutôt qu'à chercher les intérêts des autres. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous confessons aussi que c'est seulement sous l'effet de ta grâce et sous l'effet puissant de ton Esprit Saint agissant en nous que notre cœur peut changer. Alors aie pitié de nous, s'il te plaît. Aide-nous à mettre en pratique ta loi, les principes même de ta loi dans nos relations les uns avec les autres. Te prions cela au nom de Jésus. Amen.